Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour votre podcast consacré à la Formule 1 et je retrouve pour ce 10e numéro de la saison 2022 mon camarade Stéphane Vreignot avec son pain râlé, il revient de vacances, il est beau.
Oui, c'est ça. Ça va, Gilles ?
Oui. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Stéphane. À peine as-tu posé ta pelle et ton seau de retour de la plage que tu vas voir qu'il y a du lourd avec l'arrivée de Volkswagen en Formule 1. On en parle depuis longtemps. Et bien, ça y est, le président du directoire du groupe allemand a annoncé l'arrivée de Porsche et d'Audi en Formule 1 à partir de 2026. Lewis Hamilton peut-il planter Mercedes ? Le septuple champion du monde laisse un peu planer le doute sur ses intentions de retraite ou non. Et de toute façon, on sait que ça va finir par arriver, qu'un jour il raccrochera le Britannique. Alors, quelle solution aurait Mercedes ? Vous allez voir, c'est pas simple. Et puis, la Formule 1 et la Formule E pourraient-elles s'inspirer l'une de l'autre pour progresser ? Depuis quelques années, les deux organisateurs rivalisent d'idées pour dynamiser le format de leur compétition. Et on va recevoir Thomas Chevaucher, qui est le patron de l'équipe DS Performance en Formule E, pour échanger sur les solutions qui pourraient être adoptées en Formule 1 et en Formule E pour améliorer les deux disciplines. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement les nouveaux épisodes sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant avec ce serpent de mer qui remonte déjà à très longtemps, puisque c'est la définition d'un serpent de mer d'ailleurs. Le groupe allemand Volkswagen va s'engager en Formule 1. C'est le patron du directoire du groupe allemand, Herbert Diess, qui l'a confirmé lors d'une conférence de presse diffusée sur YouTube il y a quelques heures, avec l'arrivée de deux marques du groupe. Ça sera donc Porsche et Audi à l'horizon de 2026. Stéphane, je te propose qu'on découvre la déclaration du patron hein, du groupe allemand qui à la fois explique l'arrivée de Volkswagen dans ce groupe. Je te laisse le citer si tu veux.
La F1 n'a pas été très visible aux États-Unis pendant longtemps, mais ce qui s'y passe maintenant en termes de marketing est incroyable. C'est vrai, on assiste à une montée en puissance de la popularité de la Formule 1 aux États-Unis. C'était une condition importante pour le groupe Volkswagen qui détient Porsche et Audi de s'engager avec d'autres conditions comme une nouvelle motorisation, des coûts maîtrisés. Et on a maintenant toutes les planètes qui sont alignées et Volkswagen répond présent.
Exactement. Alors, on a parlé de l'arrivée de Audi et de Porsche. C'est bel et bien l'arrivée pour Audi. En revanche, on va plutôt parler d'un retour pour Porsche, même s'il faut remonter assez loin et parfois sous des appellations différentes pour retrouver la firme de Stuttgart en Formule 1.
Oui, alors Porsche en fait un passé en Formule 1, un passé de constructeur de 1958 à 1964, 31 Grands Prix disputés, une pole position et une victoire en 1962. Et puis un retour sous la forme d'un motoriste en fait, sous le nom de TAG. Avec McLaren. Alors TAG, c'était l'abréviation de technique d'avant-garde. La société de Mansourji qui était l'actionnaire chez McLaren en compagnie de Ron Dennis. Et c'est lui en fait qui avait financé les études d'un moteur Porsche par le gourou de la technique, c'était Hans Meijer. Et l'histoire de 1983 à 87 avait conduit à 25 victoires, 3 titres pilote, 1 pour Lauda, 2 pour Prost, 84, 85, 86 et 2 titres pour les écuries. Et puis, c'était une histoire qui était aboutie, on va dire, un petit peu la façon dont les Allemands l'aiment, c'est-à-dire sortir par le haut. En 87, Il y avait aussi une montée en puissance de Honda. Et depuis, comme tu l'as dit, Gilles, on parlait d'un retour de Volkswagen, qui est un mastodonte de l'industrie automobile mondiale, qui a beaucoup de marques dans ses gammes de voitures. Et donc, ça va se faire avec Porsche et Audi, et d'une façon un petit peu particulière.
Exactement, parce qu'on va maintenant s'intéresser à la forme dont ces deux constructeurs vont s'engager en Formule 1, avec deux voies finalement un petit peu différentes. Du côté de chez Porsche, a priori, hein, on peut toujours avoir des surprises, mais l'idée, ce serait plutôt d'arriver en tant que motoriste. Manifestement, ce serait en association avec l'équipe Red Bull, alors que Audi a plus un cheminement qui va conduire la firme aux quatre anneaux vers un statut d'équipe, vraiment. C'est-à-dire, on construit le châssis et le moteur. On s'intéresse déjà à Red Bull, à Porsche, Stéphane, donc avec une association en vue avec Red Bull.
Oui, elle est présentée même comme acquise par quelqu'un qui est très très bien informé dans le paddock, qui est Gerhard Berger. Il a même dit que la collaboration aurait commencé parce que quand on parle de mariage, forcément, on met en place tout ce qu'on peut apporter l'un et l'autre. Donc déjà, ça, les synergies sont déjà en voie de se concrétiser. Mais je reviendrai juste sur pourquoi Porsche motoriste et pourquoi Audi constructeur à part entière, j'ai un constructeur de châssis et de moteur. Peut-être parce que Volkswagen a voulu se positionner en face de Mercedes, puisqu'avec un statut de constructeur à part entière pour Audi, on est plus au niveau industriel en concurrence avec Mercedes plutôt que si ça avait été Porsche. Si Porsche était entré en Formule 1 avec une voiture complète, il se serait positionné à Ferrari. Voilà, et ça sera pour plutôt les 24 heures du Mans, on va dire. Donc Porsche, oui, qui serait le prochain associé de Red Bull, qui s'occupe maintenant de ses moteurs dans la suite
de Honda. Avec finalement, pour l'instant, un savoir-faire. Le moteur de Red Bull Powertrains, pour l'instant, c'est un Honda.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est né Honda, il est entretenu par Red Bull, qui a mis en place maintenant une équipe de designers pour inventer son moteur de 2026, dont la réglementation n'est pas complètement arrêtée, mais les grandes lignes sont sur le papier, parce qu'autrement, Volkswagen ne se serait pas engagé. Il y a eu des négociations avec les autres écuries, et il y a des questions effectivement délicates qui se posent, comme le transfert de technologie dont ne veut pas entendre parler des équipes comme Alpine, comme Mercedes, comme Ferrari. Ils veulent vraiment que Porsche reparte
d'une feuille blanche.
Voilà. Donc ça, ils ont un petit peu peur de ça. Et puis, ils ont exclu aussi la question des concessions telles qu'on les connaît en MotoGP, c'est-à-dire, par exemple, de proposer à Porsche, en arrivant en Formule 1 et à Audi, de faire toute une saison avec, par exemple, 4 blocs moteurs,
au lot 3
pour les autres, pour leur permettre de se mettre le pied à l'étrier. Donc ça, c'est complètement exclu.
Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, Porsche motoriste de chez Red Bull. On évoque maintenant le cas de Audi, on le disait, qui devrait arriver en tant qu'équipe à part entière. Sauf qu'on ne va pas rajouter manifestement une équipe sur la grille. Ça veut dire qu'il faut racheter une équipe existante. Si on fait le tour rapidement, alors évidemment pas les trois grosses, McLaren a déjà décliné toute possibilité, Sauber n'est pas vendeur, Aston Martin a quand même des accords avec Mercedes.
Alors des accords industriels qui rendent vraiment caduque le projet de Lance Stroll de partir un petit peu tout seul, sabre au clair. Pour moi, il y a très très peu de solutions en fait.
Alors en fait, Williams.
Voilà.
Qui est une équipe aujourd'hui qui est indépendante. Et alors, c'est là que c'est assez drôle, dans laquelle on retrouve quand même des éminences, des anciennes éminences du groupe Volkswagen en sport. Jost Capito, François-Xavier de Maison, hein, notamment, qui avait beaucoup travaillé sur la Polo en championnat du monde des rallyes. On se connaît déjà.
Voilà, tout à fait, il a ses entrées et je pense que ça, c'est un levier qui peut être assez fort. C'est la seule écurie véritablement indépendante qui appartient à un fonds de pension américain, qui est peut-être prêt à vendre, tout simplement, puisqu'ils sont
en
là
ayant
aussi
fait une bonne opération financière.
Exactement, parce que, en fait, quand tu détiens une écurie en Formule 1, tu détiens surtout une licence et tout nouvel entrant doit payer quelque chose, un droit d'entrée. Et là, la question qui se pose, c'est si tu es un nouvel entrant, tu payes 200 millions de dollars reversés à parité aux 10 écuries existantes du plateau, c'est-à-dire 20 millions de dollars, pour, en fait, au nom de la dilution des bénéfices, des droits commerciaux de la Formule 1 en fin de saison. Donc là, c'est la solution, ça serait plus de racheter Williams. Tout à fait.
200 millions, tenez, je rentre. C'est pour rentrer en boîte. Vous trouvez que l'entrée en boîte, elle est chère. Et ben là, c'est 200 millions.
Voilà.
Et tu n'as pas ta bouteille de champagne.
Bon. Donc, Williams paraît la cible la plus évidente parce qu'en fait, c'est quasiment la seule qui reste. La seule, peut-être, avec une autre.
Eh oui, AlphaTauri, parce que finalement, si Porsche s'associe à Red Bull, bah, la petite sœur AlphaTauri, qu'est-ce qu'on en fait ?
Elle roulera de toute façon avec ce moteur Porsche aussi, ce qui pose quand même d'autres questions, puisque AlphaTauri, c'est comme l'équipe B de Red Bull qui sert à former des pilotes, et ça, ils y tiennent beaucoup, à trouver les futurs remplaçants de Verstappen et autres, à former des techniciens, etc. C'est une écurie qui est une dimension un peu plus petite, mais je pense que ça serait difficile de demander ou de faire comprendre à Red Bull qu'ils doivent abandonner en fait cette zone d'influence aussi qu'ils ont, parce qu'ils ne forment pas simplement des pilotes ou des techniciens, c'est que ça leur fait une ou deux voix supplémentaires quand il faut faire des tours de table pour avoir l'unanimité sur de nouvelles décisions. Donc tu as un pouvoir aussi politique. Et là, revendre AlphaTauri à Porsche, ce serait à Audi, ce serait perdre aussi de l'influence en termes politiques. Donc c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas si ça pourrait se faire aussi facilement qu'on pense.
Ouais, en tout cas, ça ne sera pas simple, hein, quoi qu'il arrive dans les mois qui viennent. Mais ça reste quand même une incroyable prise de guerre pour la Formule 1. Faire arriver, et on sait qu'on a beaucoup travaillé, faire arriver un nom comme Porsche et un nom comme Audi en Formule 1, c'est vraiment, j'ai employé ce terme de prise de guerre parce que on les a vraiment, on les a courtisés depuis très très longtemps du côté de la Formule 1.
Oui, et Herbert Diess dit quelque chose de précis, c'est que là, quand il dit, quand on regarde en fait les sports majeurs dans le monde entier, en sport mécanique, seule la Formule 1 compte. C'est quand même pas rien. Bon, c'est pas très élégant, on va dire, pour l'engagement aussi en endurance aux 24 heures du Mans, mais ça, c'est le deuxième volet, on en parlera aussi un petit peu. Mais ça me rappelle ce qu'avait dit Mario Theisen, le boss de BMW Motorsport, à la fin des années 90, début des années 2000. C'est que une victoire en tant que motoriste en Formule 1 à Monaco, donc c'était le cas avec la Williams BMW de Montoya en 2003, apporte autant de retombées qu'une victoire en tant que constructeur à part entière aux 24 heures du Mans. Et BMW savait de quoi il parlait, puisqu'ils avaient gagné les 24 heures du Mans avec une BMW construite par Williams en 1999. Donc là, il fallait aller plus loin. Et le statut de motoriste, je pense, ne suffit plus aujourd'hui. Il fallait rentrer vraiment de plein pied. Et si tu regardes bien Gilles, finalement aussi, une influence pour Volkswagen avec une écurie chez Red Bull, une deuxième, l'écurie B avec AlphaTauri, et puis une troisième à part entière avec Audi, ça redessinerait quand même assez la carte politique de la Formule 1, et ça, c'est aussi un danger pour Mercedes, pour les valeurs établies, Ferrari, Alpine.
Et ça a provoqué d'ailleurs une première levée de bouclier, hein, parce que, évidemment, ça change l'équilibre politique, ça, c'est une certitude. Et il y a aussi, tu parlais tout à l'heure des concessions, c'est Laurent Rossi qui a évoqué clairement le fait que, oui, d'accord, alors deux constructeurs, mais ça veut dire deux fois le budget pour éventuellement développer un même moteur sur lequel on mettrait un badge Porsche, un badge Audi. Comment est-ce que ça va se passer ? Le président de l'équipe française qui expliquait que, en gros, ça fait des années et des années que Renault et maintenant Alpine travaillent au développement d'un moteur et qu'avec ce genre de situation, on peut se retrouver finalement avec en plus un régime de concession qui peut être imaginé, qui peut permettre à un constructeur de rattraper finalement son retard sur ceux qui sont là depuis plusieurs décennies. Hein. On pense à Ferrari, on pense aussi à Mercedes.
Parce que la question, c'est que là, les moteurs sont gelés, maintenant jusqu'en 2025 inclus. Donc, il n'y a plus de frais de développement en termes de moteurs. On l'a vu, c'est pour la fiabilisation. C'est vraiment, c'est pas la marge, hein, parce qu'il ne s'agit surtout pas de ça. Mais les sommes engagées ne sont plus les mêmes. Mais maintenant, il faut faire un nouveau moteur. Ça va coûter très cher. Et on parle d'un budget aussi capé pour faire un moteur. Donc, c'est là la question. Et Volkswagen, en expliquant aussi qu'ils auraient deux moteurs différents à faire, qui seraient en fait les mêmes, hein, compterait un budget double, Évidemment, dans l'esprit, ils ont envie de frapper très fort en arrivant en 2026 et d'écœurer tout le monde. Et c'est ce qui fait peur, en fait, aux motoristes actuels, Mercedes, Ferrari et Renault pour Alpine.
Voilà, alors peut-être que la solution, ça serait éventuellement pour Porsche et pour Audi de faire un moteur avec une architecture complètement différente. Mais évidemment, ça serait un gros pari et il y aurait forcément un qui prendrait l'avantage sur l'autre. Ça va être compliqué, mais quoi qu'il arrive, c'est une bonne nouvelle pour la Formule 1, c'est deux grands noms du sport automobile qui arrivent.
Et puis,
tu parlais d'endurance tout à l'heure. Porsche, c'est 19 victoires aux 24 heures du Mans. Audi,
13. Voilà.
Tout à fait. Ils reviennent aussi au Mans parce que, mine de rien, la limitation des budgets en Formule 1, ça laisse de la place pour faire autre chose. J'ai envie de dire, c'est tout bénef.
C'est tout bénef. Je pense que c'est plus que ça. C'est qu'on va rentrer dans l'âge d'or des sports mécaniques en Formule 1 avec beaucoup de constructeurs prestigieux. On assiste vraiment à la disparition des marques qui sont rebrandées. On avait du Force India ou du Racing Point qui n'évoquaient pas grand-chose aux gens. C'est devenu Aston Martin, etc. Et puis, effectivement, on a ces constructeurs maintenant qui s'engagent en F1 au Mans. Et ça, c'est le résultat d'un gros travail à la FIA pour limiter les budgets. Et aujourd'hui, ce qu'on faisait avec un budget uniquement en Formule 1 il y a 10 ans, on pourra le faire bientôt en F1 et aux 24 heures du Mans et en championnat du monde d'endurance, c'est-à-dire du côté, autant pour la F1 que de l'endurance, de l'Europe et des États-Unis.
Oui, ça, c'est, donc, faut rappeler qu'on a harmonisé le règlement technique de
l'endurance. Et là aussi, c'est le travail.
Entre l'IMSA et le WEC, le championnat du monde d'endurance. Et donc, on pourra rouler avec des voitures qui font les 24 heures du Mans. On pourra aller rouler aux 24 heures de Daytona.
Donc, c'est le travail de la CO aussi, l'Automobile Club de l'Ouest, qui a rapproché, qui a créé en fait ces conditions-là. Et c'est ce qui va nous donner aussi des pilotes. En Formule 1, on va peut-être les voir comme Charles Leclerc qui rêve de faire les 24 heures du Mans avec Ferrari. Et cette Ferrari pour Hypercar devrait faire ses premiers tours de roue, si c'est toujours prévu comme ça, au mois de juin.
Exactement. Donc, tu nous annonces l'âge d'or de la Formule 1.
Tout à fait. Et là aussi,
avec une petite nuance, on se souvient qu'au début des années 2000, c'était les constructeurs généralistes qui investissaient sur
Toyota,
la Formule 1. Toyota, BMW, Renault.
Renault surtout.
Qui était là.
Vraiment une approche globaliste, mondialiste, à tel point que Renault ne voulait pas tellement dire qu'ils étaient français. C'était avant tout une marque internationale qui se présentait comme telle. Toyota aussi, c'était le premier constructeur au monde. Volkswagen a ce statut-là de mastodonte de l'industrie automobile mondiale, mais ils arrivent avec dans cette concurrence maintenant des marques de prestige, des marques premium. Donc on va voir ce que ça donne et ça valide aussi, Gilles, quand même, les vues, les plans de Liberty Media qui a racheté la Formule 1 en 2017. Alors avec des ajustements, des choses dont on a discuté ici, les projets de grille inversée, maintenant les courses sprint qui ne sont pas entièrement convaincantes, mais là, quand on pousse pour avoir des budgets capés et qu'on a des budgets qui sont maintenant raisonnables, on fait rentrer tout simplement Volkswagen en Formule 1. Et ça, c'est, je trouve, la première réussite majeure de Liberty Media avec l'engouement des États-Unis, mais les deux sont liés.
Exactement, c'est une très très belle réussite et on est impatient. Il va falloir qu'on fasse quelques numéros des Fous du Volant avant d'avoir une Red Bull Porsche et une Audi sur la grille de départ d'un Grand Prix de Formule 1. Ça sera à partir de 2026 donc. Le deuxième sujet qu'on voulait évoquer dans les Fous du Volant, c'est une question. Lewis Hamilton peut-il planter Mercedes? Alors, ça paraît un peu rude posé comme ça, comme question, mais en fait, à l'arrivée du Grand Prix d'Émilie-Romagne, cela a donc fait trois Grands Prix consécutifs sans Lewis Hamilton sur le podium. Alors, c'est déjà arrivé, Stéphane? Pas si souvent que ça quand même, ça remonte un petit peu. Et là, on commence à se dire... Ça prend pas une bonne direction,
oui,
exactement.
Tout à fait. Ben, en fait, trois podiums sans Lewis Hamilton, le précédent, c'était 2013 quand même. Donc, c'était à la fin d'une séquence de 8 Grands Prix, les 8 derniers Grands Prix de la saison, Monza, Sao Paulo. Avant, Lewis Hamilton avait dû prêter à gagner sous l'ère hybride depuis 2014 et ça tournait très très fort pour lui. Mais on s'aperçoit que ce qu'il vit là, ça n'a rien d'exceptionnel. Regardez, 2009... il a passé 9 Grands Prix, les 9 premiers de la saison, avec une McLaren cataclysmique qui ne lui a pas permis d'obtenir un top 3 à l'arrivée. 2011, c'est pareil, la voiture n'est pas bien née, pas hyper performante cette année-là, de Monaco à Silverstone, ça fait 4 courses. 5 courses de Budapest à Suzuka. Ça reprend, il y a une séquence aussi, mais ça qui était plus lié à des problèmes de fiabilité. 5 Grands Prix de Singapour à Abu Dhabi. Et donc, on retrouve cette séquence 2013 des 8 derniers Grands Prix de la saison. Donc, ça veut dire que ce que vit là Lewis Hamilton, ça n'a rien d'exceptionnel. Il sait ce que c'est, mais quand même, je dirais que c'est un petit peu rude pour lui parce que régulièrement maintenant, chaque Grand Prix apporte son lot de mauvaises nouvelles et c'est un petit peu compliqué, je pense, à gérer dans sa tête.
Et oui, alors le pire, c'est que tu m'as dit en préparant ce podcast, Stéphane, oui, et attends, parce qu'il y a une autre série qui va s'interrompre, c'est la particularité, ce don qu'a l'équipe Mercedes pour exceller. Quand la Formule 1 arrive sur un nouveau circuit, c'est le cas évidemment le week-end prochain du côté de Miami, on ne peut pas placer l'équipe Mercedes comme favorite pour aller jouer la victoire. Et pour toi, là aussi, il y a un signe, on va voir les chiffres, hein, c'est assez impressionnant. Je n'avais pas fait la remarque, mais c'est vrai.
Depuis 2014, quand la Formule 1 arrive sur un nouveau circuit, c'est Mercedes qui gagne. C'est arrivé 6 fois, on le voit, hein, Sochi 2014, puis Baku. Il y a eu Mugello et Portimão en 2020, Losail et Jeddah en 2021. Et sur ces 5 premières victorieuses de Mercedes, il y en a 5 qui ont été signées par Lewis Hamilton. 5 sur 6, la sixième c'était pour Rosberg à Baku. Et ça aussi c'est pareil, on avait l'habitude ces dernières années des séries fantastiques de Mercedes. Là on voit l'autre pan, je dirais statistique, c'est-à-dire des séries qui prennent fin. Il y en a d'autres aussi, Lewis Hamilton, qui a remporté une pole position et une victoire invariablement chaque année depuis son entrée en Formule 1 en 2007. Il a un record pour les pole positions et je crois qu'il a un record qu'il partage avec Michael Schumacher pour les victoires. Eh bien, il n'est pas du tout certain de prolonger ses séries cette année. Et là, il y a un petit peu tout qui part en lambeau, quoi, hein, tout
Exactement.
Simplement.
Alors, il y a eu donc ces statistiques que tu as évoquées. Et puis, il y a quelques jours, Lewis Hamilton a publié un post Instagram avec un message assez énigmatique quand même. Alors, vous le voyez, hein, la photo est assez jolie. Et il y a donc cette déclaration. Je travaille sur mon chef-d'œuvre. C'est moi qui déciderai quand il est terminé.
Alors tu vois sur la photo d'ailleurs qu'il y a une lumière derrière lui. Donc, il y a encore quelque chose qui brille et qui ne demande qu'à briller encore. Tu vois, donc c'est vraiment une mise en scène, hein, cette photo.
Mais moi, alors, est-ce qu'il parle de Formule 1, de quoi parle-t-il exactement? On a du mal à comprendre. Moi, il y a une certitude absolue dans cette histoire, c'est que je suis persuadé qu'il s'amuse et qu'il dit, tiens, je vais faire ça. Et puis, on va voir ce qu'on va me sortir comme interprétation. Et alors, tout ça pour vous dire que nous, on s'est dit avec Stéphane... La question de savoir s'il va arrêter ou pas. De toute façon, c'est lui qui a la réponse. Est-ce qu'il a lui-même la réponse? Honnêtement, je ne pense pas, mais voilà. Mais de toute façon, ça va finir par arriver. Alors voilà, si demain on apprenait, Stéphane, Lewis Hamilton arrête la Formule 1, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, Mercedes serait bien dans les ennuis. Et c'est ce qu'on va vous montrer. Et quelque part, si Lewis Hamilton dit « j'arrête la Formule 1 », l'épisode de la W13 chez Mercedes qui est manqué, qui est mal né et qui pour l'instant est un incident industriel, pourrait se transformer en accident industriel parce que si cette voiture mal née fait finalement éclore dans l'esprit de Lewis Hamilton qui pensait peut-être déjà un peu de prendre sa retraite, alors là l'incident se transforme vraiment en accident industriel et moi je me dis c'est comparable à la façon dont Ferrari a mal géré la fin de carrière de Michael Schumacher et qu'on s'est retrouvé quelques mois plus tard avec un Schumacher qui décide d'aller rouler pour Mercedes alors qu'il était ambassadeur chez Ferrari. Catastrophe absolue. Donc aujourd'hui on se dit que il y a un potentiel cataclysme chez Mercedes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Et après, on va se poser la question, quelle piste?
Alors, tout d'abord, je dirais qu'en fait, ils n'ont pas préparé l'avenir. C'est le sentiment qu'on a. C'est qu'il y avait une idée.
Ce qui est fou,
généralement,
il a 37 ans.
Il y avait une idée reçue, c'est que Verstappen était le successeur de Lewis Hamilton il y a encore quelques mois chez Mercedes. On sait que le management de Verstappen ne veut pas en entendre parler et spécialement travailler avec Toto Wolff. Ça, c'est terminé. De toute façon, ils ont refermé le débat.
Ah bah, Red Bull, ils ont sorti le carnet de chèques. Hein, voilà. Comme ça, on est perdu.
2026, sûr, et avec une option sur deux années, 2027 et 2028. Donc, il est verrouillé. Il faudra chercher ailleurs. Et la question, c'est que Toto Wolff disait, moi, je dois préparer le successeur de Lewis Hamilton. Alors, a priori, il s'appelle... Peut-être
George
Russell, mais ça ne solutionne pas le problème du second pilote qui est là pour se battre pour les titres constructeurs. Et là, il faut trouver un gros calibre aussi sur le marché et c'est compliqué. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant ou en tous les cas révélés, répertoriés comme tels.
Exactement. Alors, on va faire le tour. On exclut donc Max Verstappen, on l'a dit. On va exclure aussi Charles Leclerc parce qu'il est signé chez Ferrari. Alors, je te propose de commencer la liste par Lando Norris. Sauf que Lando Norris, alors, il correspond un peu au profil. Il a 22 ans.
Il a complètement le profil.
Voilà, ben oui, mais sauf qu'il est signé chez McLaren jusqu'à fin 2025.
Oui, mais je veux dire que McLaren est endetté jusqu'au cou. Et que si aussi Zak Brown l'a fait, c'est pour revendre un contrat comme ça. C'est ce qui peut solutionner beaucoup de problèmes. Sauber faisait ça aussi pour faire des rentrées d'argent. Ils ont vendu leur usine à Woking pour ça. Ils ont contracté un prêt très important auprès d'une banque d'État de Bahreïn. Et là, ils sont en sursis, en fait, financièrement. Et c'est ce qui leur permettrait aussi de voir la fin de leur problème. Je pense que ça, c'est, moi, je ciblerais là-dessus. Et tu sais, c'est la fameuse formule. Quand tu proposes une somme d'argent, à partir d'une certaine somme, tout le monde écoute. Donc, je pense que Zak Brown serait prêt à écouter aussi les arguments de Toto Wolff, même si on est dans un environnement de coûts maîtrisés, et c'est ce que recherche aussi Mercedes. Mais là, il faut tout sauver. Ils ont perdu le titre constructeur, le titre pilote l'année dernière. Ils vont perdre certainement les deux titres cette année, pilote et constructeur. Ça veut dire qu'il y a presque le feu au lac, quoi. Et là, si derrière, l'an prochain, tu redémarres sans Lewis Hamilton, compliqué quand même.
Exactement. Donc, Lando Norris, on le met en pole position pour être recruté. Après, on a un garçon qui a longtemps été lié à Mercedes, qui était, on rappelle.
Il est toujours lié à Mercedes, quelque part.
Esteban Ocon.
Il est contracté par Alpine, mais Esteban Ocon l'a dit lui-même. Qu'en sous-main, c'est Toto Wolff qui est prêt à le reprendre au terme de son contrat chez Alpine s'il n'y avait pas de suite.
Bon, exactement.
Si, mais Toto Wolff a encore un droit de regard là-dessus parce qu'il a beaucoup investi et qu'il est prêt à en faire quelque chose si l'occasion se présente.
Ah, ça, Esteban Ocon est en contrat avec Alpine jusqu'à fin 2024. Alors, puisqu'on parle d'un Français, on va parler de l'autre. Pierre Gasly, qui a 26 ans désormais, qui est en contrat avec Red Bull jusque fin 2023. Et là, pour le coup, on se dit, c'est peut-être un bon rapport qualité-prix.
Tu as vu la perf de Perez quand même à Imola. Voilà, c'est ça donc, ce qui complique un petit peu les choses.
Ah, ça, c'est pour reprendre éventuellement la place de Pierre, enfin, pour que Pierre Gasly reprenne place chez Red Bull. Mais ça veut dire que s'il reste chez AlphaTauri, Pierre, il
oui, parce qu'il attend. Parce qu'il attend la place chez Red Bull, parce que Red Bull, c'est la solution la plus intéressante et la plus prometteuse aujourd'hui. Donc,
pour
c'est
Pierre,
ce qu'il attend.
Je suis pas convaincu de ça.
Techniquement, on va dire, mais pas près d'un point de vue d'un statut, d'un contrat constructeur, c'est clair. Mais alors, Pierre Gasly parlait évoquait cette solution un petit peu avec un grand sourire parce que après Abu Dhabi en 2021, on se demandait si Lewis Hamilton n'allait pas tout plaquer et Gasly était sur la shortlist. Donc ça lui mettait un petit peu des étoiles dans les yeux, forcément.
Mais
je dirais qu'effectivement, ce serait une solution. Après, peut-être avec un statut de numéro 1 bis, parce que dans l'esprit quand même de Mercedes, maintenant, c'est Russell qui a pris le lead en l'absence d'Hamilton, même si Pierre Gasly a remporté un Grand Prix. Il a un palmarès que n'a pas encore George Russell.
Ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, il faut quand même reconnaître que George Russell fait un travail assez incroyable.
Mais je pense encore que Gasly poursuit son idée de Red Bull pour l'instant. Mais bon, après, quand il y a Mercedes qui t'appelle, c'est pour ça que je parlais aussi des performances de Perez qui resteraient. Et Helmut Marko chez Red Bull a dit on ne sait pas quoi faire encore pour l'instant de Pierre Gasly, mais s'il a une proposition intéressante à l'extérieur et que nous, on n'est pas capable de lui donner quelque chose, on le perdrait, ce qui est désolant, mais bon, on comprendrait qu'il aille voir
ailleurs.
On comprendrait qu'il aille voir ailleurs, tout
mais,
à fait.
Moi, ce qui me rend fou quand même, c'est que Lewis Hamilton, il a 37 ans. Et on n'a pas ça donne le sentiment qu'on n'a absolument pas travaillé à l'après Hamilton, parce que autant il y a un an, la proposition de Mercedes pouvait mettre effectivement des étoiles dans les yeux à n'importe quel pilote. Cette année, tu veux pas venir rouler avec la W13 là, bah, Lewis Hamilton, il vient de faire 14e avec. Non, je peux pas. Je suis désolé, j'ai une Williams. Bah, tu comprends, c'est ouais. Plus du tout séduisant de rouler pour Mercedes. Même si on peut penser qu'ils vont réagir. Donc, en fait, la seule solution maintenant pour Toto Wolff, eh bien, c'est la calinothérapie. C'est voilà ah, de oui. dire vraiment le meilleur de ce qu'il pense de Lewis Hamilton. Quel meilleur, quel plus fort, c'est, il le pense peut-être sincèrement, mais en tout cas de beaucoup communiquer sur ce point de vue parce que c'est compliqué et qu'on se dit peut-être qu'il pourrait être aussi tenté, Lewis Hamilton, de faire une pause et de revenir un peu plus tard. Ça s'est déjà vu dans l'histoire de la Formule 1, Stéphane.
Et oui, alors justement, je regardais ça. En regardant un petit peu les parcours des champions du monde, depuis 1984, on a pris Niki Lauda. Eh bien, en fait, ces champions sentent qu'ils ont un travail qui n'est pas terminé. Et je te renvoie au post Instagram de Lewis Hamilton ouais. qui disait « Je travaille sur mon chef-d'œuvre et je déciderai moi-même quand ce sera la fin ». Eh bien, Niki Lauda s'est laissé tenter par le projet McLaren en 82 de revenir, Randonis, etc. Et il a été champion du monde. Donc, ça signifie que quand tu as encore la flamme en toi, quelque chose, tu peux y arriver. Parce qu'il ne l'avait plus, cette flamme, parce qu'il n'avait plus les résultats.
Exactement.
Tout simplement, il y avait une rupture avec Ferrari. Après, il a piloté pour Brabham. Il a tout plaqué moins de 2 ans après. Chez Brabham, et puis Prost, ça a été pareil. Enfin, lui, il a refusé de piloter pour l'IG en 92, mais il est revenu très fort, je crois qu'il avait 38 ans, et pour être champion du monde. Idem pour Nigel Mansell, qui a gagné ensuite en 94, après une année sabbatique. Michael Schumacher, qui a tenté aussi le défi Mercedes en 2010, tout comme Kimi Räikkönen avec Lotus en 2012, ce qui lui a donné un contrat chez Ferrari. Il a gagné des Grands Prix chez Lotus et chez Ferrari. Et puis, idem pour Fernando Alonso, qui en est la preuve la plus manifeste aujourd'hui. Que
et encore actuelle.
Quand on a, je dirais en fait,
la grinta. C'est là,
ouais, l'orgueil même de ça. Quand on se dit, j'ai envie de sortir par la grande porte, j'ai encore quelque chose à montrer. Et ces pilotes, finalement, ces champions ont connu des trous d'air, une saison ou deux, et on laissait passer ça, et sont quand même revenus pour un dernier challenge pour dire j'ai l'orgueil, j'y retourne, et je peux faire quelque chose. Et je pense que Lewis Hamilton a quand même ça au fond de lui. Ce 8e titre, il est passé tout près à Abu Dhabi l'année dernière, et bah, il sait maintenant qu'il a tiré un trait sur le titre, il l'a d'ailleurs dit, à Imola.
Pour 2022.
Voilà, tout à fait. Et que il a une dernière année de contrat l'an prochain. Il aura 38 ans, ce qui n'est pas un âge canonique en Formule 1. Et il espère faire, au même titre que ces pilotes-là, le beaucoup sortir par la grande porte. Mmh. C'est surtout ça qui est important, je trouve, parce que c'est ce qu'on retient et un grand champion soigne sa sortie.
Exactement. Ben, on verra, mais là, ce qu'on peut faire quand même comme constat, c'est que Mercedes se retrouve en grande difficulté avec cette pression hein, finalement ouais. et ce pouvoir alors, qu'a Lewis Hamilton de dire je vais peut-être arrêter.
Oui, mais il y a des gens dans son entourage aussi, tu parles de pression, qui sont là pour faire relâcher cette pression. Et tu en as eu un témoignage
et oui, quand on a,
il y a 15 jours.
Quand on a reçu Makis Chamalidis qui nous disait l'entourage dans la vie et la réussite d'un champion, d'un athlète, c'est primordial. Et l'entourage de Lewis Hamilton, justement, je parlais de calinothérapie de Toto Wolff, il est là pour l'Autrichien. Puis il n'y a pas que lui hein, dans l'entourage ouais, proche de Lewis Hamilton.
Dès le Tour d'honneur, Imola, il a commencé l'opération cocooning. Ouais. Et Toto Wolff, il a repilé et rempilé en 2021, 2022 et 2023. Il a signé un nouveau contrat de 3 ans. Et la fin de son contrat correspond à la fin du contrat aussi de Lewis Hamilton. Donc, dans son idée, ils partent tous les deux ensemble, en même ouais. temps. Et là, c'est pour ça aussi qu'il le soutient parce que Toto Wolff aussi, il a envie de prendre du recul.
C'est sûr que Mercedes sans Lewis Hamilton, avec une W13 qui fonctionne comme une Williams.
Mais voilà, c'est que s'il s'en va, ils partent tous sur un constat d'échec et c'est peut-être l'image un petit peu qui restera. Bon, il y a quand même tous les titres. Hein, mais... Et donc, Toto Wolff est là et je trouve qu'il y a une autre personne aussi qui le tient, entre guillemets, qui le motive au quotidien, c'est Angela Cullen, sa physio.
La petite blondinette que vous voyez systématiquement quand elle est
Hamilton, suit partout, dans le garage, qui est tout le temps avec lui, près de lui, dans le garage, pour lui donner tout ce dont il a besoin, qui prépare son casque, son équipement, et même plus que ça, qui est là sur la grille de départ. Vous la voyez courir, même parfois, derrière lui, quand il est à trottinette.
C'est une athlète, en tout cas.
Oui, mais bon, je dirais, est-ce que c'est très élégant? Je ne sais pas, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Elle le booste, elle est là, elle a fait quelque chose de très important, de fondamental en 2017. C'est elle qui a répondu à sa demande de l'alimenter de façon végane. Elle a réussi ce challenge parce que 23 courses dans une saison, ça demande beaucoup d'énergie. Elle a dit qu'il se sentait mieux grâce à ça. Et au fil de cette collaboration, cette Néo-Zélandaise est devenue sa confidente. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une clé de voûte. Et elle, elle est irremplaçable. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre quelqu'un et créer une relation de confiance en quelques mois. C'est impossible.
C'est vraiment une relation très, très particulière. Alors attention, ils sont pas en couple. Angela Cullen, elle est mariée, elle a des enfants, elle a une vraie famille. Mais ils sont tout le temps. C'est un couple, si vous voulez, mais sans la notion d'exclusivité et de relation amoureuse.
C'est une relation professionnelle, de confiance, d'amitié. C'est très fort, ça. Lewis Hamilton a aussi une relation très forte avec Peter Bonington, son ingénieur, ex-ingénieur de Michael Schumacher, qui est son ingénieur historique. Depuis 2013, son arrivée chez Mercedes. Et c'est quelqu'un de très important qui le comprend aussi dans ses demandes, quand il communique dans des moments de tension à la radio. Et Lewis Hamilton disait quelque chose d'important, on ne s'est jamais disputé avec Bono.
Ce que tu veux nous dire, c'est que tant qu'il y a tout ça, il continuera?
Moi, je le pense parce que, alors, on a vu un petit peu ces projets de champion du monde qui s'était mis en retrait de la Formule 1 et qui étaient revenus parfois dans d'autres équipes. Je pense que ce n'est pas du tout le projet de Lewis Hamilton de laisser tomber, de faire une année sabbatique et de revenir ensuite dans une autre écurie. Ça n'aurait pas de sens de toute façon, il n'y a pas de place. Et puis, chez Mercedes, je ne comprendrais pas bien. Donc, c'est la continuité qu'il faut de toute façon privilégier. Mais je pense qu'il va essayer d'aller jusqu'au bout dans ce format-là, avec ces personnes-là, même si je pense que Bono pourrait être remplacé, si ça se présentait, par quelqu'un d'autre, parce qu'on a des méthodes de travail qui sont très précises chez Mercedes et que cette personne qui arriverait aurait la même façon de faire que Bono. Mais après, il y a la communication aussi qui compte beaucoup.
Oui, une connivence. Bref. Voilà où on en est. Ce constat, c'est que finalement, c'est Lewis Hamilton qui a pris le pouvoir en quelque sorte du côté de chez Mercedes parce que c'est le grand vide derrière Lewis, c'est le déluge.
Alors, je préciserai aussi une chose parce que les mots sont importants. Je reviens au post Instagram, c'est moi qui déciderai la fin. Et en fait, tous les pilotes qui ont décidé un jour de prendre la retraite ont expliqué à peu près la même chose. C'est qu'il y a un jour, ils ont réalisé que cette somme de sacrifice n'en valait plus la peine. Et que pour eux, ça les saisissait. Ce n'était pas une décision qu'ils avaient prise, c'était un sentiment qui s'imposait à eux. Voilà. Et je pense que Lewis Hamilton, ça lui tombera aussi un jour, un matin, comme ça, en disant je n'ai plus envie, je n'en peux plus. Voilà, tout simplement. Et il en a déjà parlé à Imola en novembre 2020, à la fin de la saison. Il avait dit « Je ne suis pas sûr d'être sur la grille en 2021 ». Et c'est quelque chose qui revient chez lui.
Ça avait secoué le Landerneau de la Formule 1,
tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui… Une retraite de Lewis Hamilton, c'est une hypothèse, mais qui est réelle, parce qu'il avait aussi dit l'année dernière, en signant son contrat en février, je crois, 2021, et puis après, il avait signé son contrat 2021 en février, puis en juillet, il avait empilé pour 2022 et 2023, en précisant bien que le déroulement de ces saisons lui dirait s'il a toujours l'envie. Alors manifestement, il a l'envie de faire sa dernière année de contrat, mais on ne sait pas ce qui peut se passer, parce que cette dernière année de contrat, dans son esprit, est en option.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette saison de Lewis Hamilton et sur le fait qu'il pourrait finalement planter Mercedes. La troisième partie des Fous du Volant aujourd'hui, on est avec un invité, et un invité de marque, Stéphane Thomas Chevauchet, qui est le patron de DS Performance, qui roule en Formule 1. Bonjour Thomas, on est ravis de vous accueillir dans les Fous du Volant. Alors, On a assisté en quelques jours à une sorte de télescopage d'événements dans le monde de la course automobile et ça nous a poussé un peu à nous intéresser. D'abord, il y a eu le e-prix de Monaco que j'ai eu le plaisir de commenter sur l'antenne d'Eurosport et qui a été une course encore une fois très très intéressante. Et puis on a l'arrivée aussi du Grand Prix de Miami en Formule 1. On voulait essayer de comparer un petit peu les expériences des deux disciplines qui cohabitent désormais depuis plusieurs années, maintenant dans le milieu des sports mécaniques. Alors, d'abord, DS Performance a été champion constructeur en Formule 1 quand même, je le dis, parce qu'il y a de quoi être fier, mmh. Thomas, à deux reprises, saison 2018-2019 et 2019-2020. Champion aussi des pilotes avec Jean-Éric Vergne, avec Antonio Félix da Costa. Thomas, je voudrais vous montrer rapidement quels sont les dispositifs technico-sportifs qui ont été mis en place par la Formule 1 d'un côté, par la Formule 2 de l'autre, pour essayer de dynamiser, de rendre plus intéressantes les épreuves de chaque discipline. Par exemple, en Formule 1, on a mis en place des week-end sprints. Il y a eu évidemment l'arrivée du DRS pendant les courses, hein, le Drag Racing System. Et puis, on accorde un point au meilleur tour en course. En face, on a donc les dispositifs pour la Formule AE avec un système de qualification tout nouveau depuis le début de la saison avec des qualifications par duel pour les quatre premières lignes. L'arrivée aussi du mode attaque avec un surplus de puissance de 13% que les pilotes sont obligés d'actionner en course. Là aussi, il y a un point pour le meilleur tour en course. Et puis, il y a aussi le fan boost. Hein. Autrement dit, les fans peuvent aller sur le site internet de la Formule 1 pour donner un petit surplus de puissance aux pilotes. Thomas, j'ai envie de vous poser la première question. Est-ce que les deux disciplines se regardent quand il y a des nouveautés pour savoir « Ah tiens, ça c'est intéressant ». Est-ce qu'on est curieux en Formule AE de ce qui se passe en Formule 1?
Oui, forcément. Je pense qu'il serait quand même très présomptueux de dire que quand on est en F1, on ne regarde pas ce qui se passe en F1 parce que ça ne nous intéresse pas. Évidemment, ça nous intéresse. Il est toujours intéressant de regarder ce qui se fait en F1 et dans d'autres catégories d'ailleurs, pour voir un peu quelles sont les formules qui marchent. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de proposer aux fans et aux téléspectateurs un spectacle intéressant qui nous permet de mettre en avant les messages de la Formule 1, que sont le développement technologique et l'autre possibilité de faire du motorsport d'une manière plus sustainable. Donc évidemment, on regarde ce qui se fait avec beaucoup d'intérêt. La Formule 1, c'est un peu la grande sœur. Donc on regarde ce qui s'y fait avec intérêt et on prend les bonnes idées s'il y en a à prendre, évidemment.
Alors justement, ça c'est un échange. Et qu'est-ce qu'il y a comme idée dans le laboratoire de la Formule 1 qui tente aujourd'hui la Formule E?
Alors, il n'y a pas d'idées qui sont prises directement en ce moment. Aujourd'hui, on va dire la Formule E, elle est basée sur un modèle différent. Le modèle de la Formule E, c'est des voitures électriques qui courent en ville. Pour amener le spectacle de la course automobile au contact de nos fans, donc en opposition ou en face de la Formule 1 qui fait un spectacle sur des grands circuits où les gens doivent se déplacer pour aller voir la course. Donc ça, c'est une différence. Dans les choses qui sont un peu plus similaires, on va dire que le DRS et l'attaque mode, c'est quand même deux phénomènes qui se ressemblent un peu. Évidemment, ce n'est pas la même manière de le faire. Alors pourquoi on ne le fait pas avec un DRS en FE? Parce qu'en fait, il y a très peu d'appui aérodynamique en FE. Donc déjà, on n'a pas d'aileron. Mais même si on avait un aileron, si on le débraquait, ça ne ferait pas grand-chose. Et nous, on a l'avantage de pouvoir piloter très facilement la puissance de nos moteurs. Donc on peut faire la même chose en rajoutant de la puissance. C'est deux manières de créer du spectacle. Ça, c'est une constante dans quelle que soit la catégorie. On veut voir du spectacle, on veut voir des dépassements pour qu'il se passe des choses en piste. Et naturellement, ça peut être plus facile d'apporter des artifices qui augmentent le nombre de déplacements.
Alors, moi, j'ai une petite question. On aurait pu rajouter dans ces dispositifs technico-sportifs de la Formule AE le fait que toutes les équipes, vous, chez DS Performance, vous avez exactement le même châssis que tous vos adversaires. Est-ce que ça change la façon d'aborder une épreuve?
Non, ça ne change pas directement la façon d'aborder une épreuve. La principale chose que ça change, c'est que ça réduit les budgets. C'est-à-dire que la raison pour laquelle les châssis et les batteries sont communs à toutes les équipes en Formule E, c'est le contrôle des coûts. La Formule E a vraiment fait le choix de centrer ses recherches et son travail technologique sur la chaîne de traction électrique, ce qu'on appelle le powertrain. Donc le powertrain, c'est le moteur électrique, l'inverteur, qui est en fait la carte électronique qui pilote le moteur électrique, mais qui est une pièce très importante, la transmission et la suspension arrière, donc tout l'arrière de la voiture. Ça, c'est la zone sur laquelle les constructeurs se battent pour améliorer la performance des voitures. Par contre, le châssis et donc la carrosserie et donc l'aérodynamique et les batteries sont communes parce que ce sont des secteurs qui sont très chers à développer, mais qui ne sont pas les secteurs sur lesquels on a envie d'axer le développement de la formule électrique. Donc, c'est la raison pour laquelle ce sont des pièces communes. Après, ça ne change pas la manière d'aborder un week-end de course parce que globalement, quand on arrive sur le circuit, on va faire avec le package qu'on a. Donc, soit il nous est propre, soit il est commun à tous les constructeurs, mais au moment où on arrive sur le week-end de course, bah, il est existant, c'est celui-là. Et on va essayer de l'adapter le mieux possible au circuit sur lequel on se trouve, aux conditions dans lesquelles on se trouve, pour être le plus performant en piste. Et ça, je pense que c'est très similaire entre la FE et la F1.
Alors, j'ai une autre petite question. On a vu les dispositifs de la Formule 1 et de la Formule E. Il y a aussi la MotoGP qui a développé depuis quelques saisons des idées intéressantes avec notamment le système de long lap. Au lieu de mettre une pénalité de 5 secondes, et il y en a régulièrement aussi en Formule E quand il y a des actions litigieuses, et ben un pilote doit prendre une partie du circuit qui est un petit peu plus longue. Et puis, il y a un autre système. Et là, je vais vous demander aussi votre avis. Le système de concession qui est fait en MotoGP pour inciter des nouveaux constructeurs à venir. Est-ce que ce sont des choses qui, d'après vous, seraient intéressantes à expérimenter en Formule E?
Alors moi, j'aime bien les
deux. Et en Formule 1, je vous pose la question,
ouais,
pour les deux.
Ouais. Alors pour ce qui est de la Formule 1, je vais laisser les spécialistes de la Formule 1 répondre. je pense que le système de concession, c'est un truc qui est vraiment super bien. Et il fait sens. Parce que en fait, ce qu'on veut, c'est voir de la course très resserrée, avec plein de constructeurs qui peuvent se battre ensemble, plein de pilotes qui peuvent se battre ensemble pour faire du spectacle. Donc en gros, je ne connais pas tous les détails, mais ce que je comprends, c'est que les équipes qui sont le plus en difficulté ont le droit de faire plus de développement et d'apporter plus d'évolution à leur machine, qu'elle soit à deux roues ou à quatre roues.
On peut utiliser plus de moteurs aussi.
Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour permettre de niveler par le haut. C'est-à-dire que ceux qui sont le plus en difficulté, ben on va essayer de les aider pour pouvoir raccrocher le wagon. Et c'est une manière un peu opposée à certaines catégories qui créent ce qu'on appelle des BOP, donc des balances de performance, qui vont niveler par le bas en disant ceux qui sont trop rapides, on va les ralentir, histoire qu'ils attendent les copains qui ont plus de difficultés. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus vertueux d'essayer d'aider ceux qui sont en difficulté, en particulier dans le contexte de la Formule E, puisque notre objectif, c'est d'accélérer le développement des technologies électriques. Donc le but, c'est bien d'aller le plus vite possible de l'avant. Donc ce n'est pas du tout dans l'état d'esprit de ce qu'on fait nous, d'essayer de ralentir ceux qui vont le plus vite. D'ailleurs, on ne le fait pas. Alors nous, on a l'avantage en Formule E, et c'est aussi l'avantage de la batterie commune, c'est que la puissance et l'énergie des voitures, est contrôlée à la sortie de la batterie, ce qui fait qu'on a tous la même puissance par définition. Le règlement, il limite la puissance à la sortie de la batterie, et ça nous aide beaucoup à avoir des performances très resserrées. C'est difficile de faire un gros écart. Donc, on va travailler sur plein de petits détails. On va tout optimiser. Ce qui, à la fin, va quand même permettre de gagner la course, mais ne va pas permettre de gagner la course en ayant mis deux tours à l'arrière du peloton.
Alors, la F1 a quand même introduit un système de concession avec ses temps en soufflerie décroissant. Du premier au dernier, le dernier a plus de temps de... plus de sessions en soufflerie pour développer sa voiture. On l'a introduit, c'est alors que la Formule 1 est par essence une catégorie qui prône le développement et qui est contre cette forme d'égalisation, je dirais, des performances. Est-ce que ça, c'est un chemin? Alors, sachant que, vous l'avez dit, en Formule E, le travail sur l'aéro est moins pertinent, même si on a eu des solutions qui ont été intéressantes, testées cette année avec les nouveaux fonds plats en Formule 1, qui donnent peut-être aussi des idées pour la Formule E du futur.
Oui, complètement, c'est une bonne idée. Mais après, je le vois plus comme... En fait, la limitation des heures de soufflerie, c'est plus une mesure de contrôle de coûts. C'est-à-dire que pour contrôler les coûts, parce qu'on sait que c'est quand même aussi important pour les différentes séries d'essayer de limiter les coûts pour pouvoir retenir un peu les constructeurs, on va limiter le nombre d'heures de soufflerie ou de CFD. Et ce contrôle de coût, on va l'ouvrir un petit peu pour ceux qui ont des difficultés. Donc, je pense que, à mon avis, les gens qui ont mis en place ce système-là en Formule 1 ont plus vu ça comme une aide à ceux qui sont un petit peu plus en difficulté technique qu'une limitation à ceux qui étaient devant. Parce qu'en gros, l'idée, c'était de limiter tout le monde pour contrôler les coûts. Et OK, ceux qui sont un petit peu en difficulté, on va les aider en ouvrant un petit peu plus les possibilités de développement. Je pense que c'est fait un petit peu dans le même esprit que que ce qui est fait en MotoGP, je trouve que c'est bien. Nous, on l'a pas fait en FE. Je pense qu'on l'a pas fait en FE parce qu'à ce stade, et ça ne veut pas dire qu'on le fera jamais, on pense qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'il y a quand même beaucoup de constructeurs qui sont très compétitifs. On le voit, il y a beaucoup de différentes voitures ou pilotes qui sont capables de gagner. Donc, du coup, je pense qu'on en a à ce stade pas forcément besoin.
Moi, j'ai une petite question aussi qui concerne le fait que, quelque part, le modèle de la Formule E avec des circuits en ville, on voit qu'en Formule 1, on va de plus en plus sur les circuits en ville, et c'est le cas justement pour le prochain Grand Prix à Miami. Quelque part, ça valide un petit peu le format qu'a choisi la Formule E. Pour vous, c'est plutôt valorisant.
Oui, c'est sûr que c'est sympa d'aller en ville, ça fait des cadres vraiment très chouettes. Ça peut faire des tracés très sympas et apporter, encore une fois, la course à proximité des fans. Nous, c'est quelque chose qu'on défend vraiment au sein de la Formule E. C'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Alors, c'est vrai qu'on a été faire parfois quelques courses en dehors des villes, notamment pendant la crise du Covid et à cause de la pandémie, parce que c'était quand même mieux de courir sur ces circuits-là que de pas courir du tout quand on pouvait pas aller dans les villes. Mais ce n'est pas notre ADN. Notre ADN, c'est vraiment de rester dans les villes, d'apporter la course au contact de nos fans. Et on voit que les courses de F1 qui sont faites en ville donnent aussi des résultats très très sympas. Donc je pense que là-dessus, on a évidemment des points qui se rejoignent.
Alors je vais parler aux techniciens vraiment que vous êtes. La question aujourd'hui en Formule 1, quelque chose qui nous surprend, qui nous interroge, c'est des voitures qui pèsent 800 kg. C'est 200 kg de plus qu'il y a 13 ans. Alors 800 kg, c'est pilote compris. Sans l'essence, ça veut dire que c'est une inflation. À quoi est-ce dû? On sait que les voitures sont beaucoup plus solides, résistantes, donc ces dispositifs de sécurité ont un coût en termes de poids. Mais est-ce que ce n'est pas le prochain sujet auquel il faut s'attaquer de toute urgence? Et je dirais même, en sous-question, est-ce qu'une Formule 1 de 800 kg est plus sécurisante qu'une Formule 1 de 600 kg lors d'un impact avec les mêmes dispositifs de sécurité?
Avant que vous répondiez, Thomas, j'ajoute que la troisième génération de Formule E qui a été présentée la semaine dernière sera plus légère de 60 kg, hein, je crois. Donc on essaye de réduire le poids en Formule E.
Ouais, c'est exactement ce par quoi j'allais commencer.
J'ai volé la vedette.
si on, alors je vais le dire comme un ingénieur, mais si on trace l'évolution de la masse d'une Formule 1 dans le temps et l'évolution de la masse d'une Formule E dans le temps, les deux courbes elles se croisent en 2022. C'est-à-dire que pour la première fois à la fin de cette année, donc à la sortie de la Gen 3, une Formule E sur la grille de départ sera plus légère qu'une Formule 1 avec le plein sur la grille de départ. Puisqu'effectivement, une F1 à vide, ça fait 800 kg. Donc, ils embarquent en gros 100 kg d'essence, je crois. C'est-à-dire qu'ils sont à 900 kg. Une Gen 3, donc à vide ou chargée ou pas chargée, ça pèse le même poids.
C'est
l'avantage. Les électrons ne sont pas très lourds. Et ils restent dans la batterie. Donc, en fait, une FE sera 60 kg plus légère qu'une F1 sur la grille de départ à partir de l'année prochaine. Donc, est-ce qu'il n'y a que de la sécurité? Je ne crois pas. Je pense que la sécurité progresse, mais les normes de sécurité de la F1 et de la FE sont les mêmes. Donc, les crash tests sont les mêmes, le halo est le même. Les vitesses ne sont pas les mêmes, évidemment, mais les normes de sécurité du châssis sont les mêmes. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles la F1 s'alourdit petit à petit, c'est qu'elle embarque des technologies électriques qui apportent énormément d'avantages et un petit peu de masse avec, puisqu'elles conservent évidemment leur moteur thermique et leur essence. C'est aussi ce qui cause la masse un petit peu élevée des Formule E, puisque nous, c'est que des technologies électriques. Donc, les moteurs en eux-mêmes, ils sont extrêmement légers, mais pour embarquer la quantité d'énergie nécessaire dans la batterie, ça prend encore un peu de masse, même si là, pour le coup, les évolutions technologiques poussées par la FE, entre autres, font que ça progresse énormément. C'est-à-dire qu'en génération 1, donc jusqu'en 2018, il nous fallait deux voitures de 850 kg chacune pour faire une course. À partir de la génération 2, on est passé à une seule voiture qui faisait 900 kg avec le pilote pour pouvoir faire une course de 45 minutes. Et à partir de la génération 3, on passe un step en enlevant encore 60 kg à la voiture, toujours pour des courses de la même durée. Donc on est clairement dans la direction de la miniaturisation et de l'allègement de la voiture pour aller dans la direction des voitures légères et performantes, comme vous le disiez. C'est clairement la direction qu'on souhaite prendre en FE.
Et qu'est-ce qui est réalisable en termes de progrès vers l'électrification de la Formule 1? Est-ce que c'est souhaitable? Ou alors est-ce que les deux disciplines doivent garder leur vocation technique, l'offre technique?
Est-ce que vous auriez des idées, vous, chez DS Performance, à transférer en Formule 1?
Alors, il y a forcément des choses. Après, technologiquement, on n'a pas la prétention d'avoir beaucoup de choses à apprendre à la F1 quand même. Après, c'est deux concepts qui sont différents. On va dire la F1, c'est vraiment la part belle et la concentration sur la performance à tout prix. C'est-à-dire les voitures les plus performantes possibles pour aller sur des grands circuits qui peuvent les accueillir et la performance à tout prix, je crois qu'ils sont à 1000 chevaux maintenant, c'est vraiment des avions à roues, et ça c'est pas possible avec de la technologie électrique aujourd'hui, donc c'est deux approches différentes. Nous, le credo de la FE, c'est vraiment pousser au maximum les technologies électriques pour être capable d'en faire le spectacle le plus sympa possible en accélérant son développement, mais en la laissant dans un périmètre pour lequel elle est adaptée, c'est-à-dire des circuits en ville et qui sont donc d'une distance limitée et surtout avec des taux de pleine charge qui sont un petit peu plus limités. Les F1, on met 1000 chevaux avec des taux de pleine charge à 80-85%. Ça, avec des technologies électriques actuelles, c'est pas forcément possible. Est-ce que c'est pour autant une va devoir prendre le pas sur l'autre? Moi, je crois pas. C'est une offre différente. Moi, je trouve que quand on regarde une course de FE ou une course de F1, on voit pas la même chose, et c'est bien comme ça. Ça me pose pas de problème, mais c'est pas la même chose.
Thomas, j'ai une dernière question à vous poser parce qu'il y a deux des adversaires que vous connaissez bien, en l'occurrence Porsche et Audi, qui ont annoncé par l'intermédiaire du patron du directoire de Volkswagen qu'ils allaient débarquer en Formule 1. C'est une bonne nouvelle de voir deux gros adversaires comme ça partir? Ou bien vous vous dites, il va falloir que j'aille voir le patron de Stellantis, qui est régulièrement d'ailleurs dans le box de DS Performance. Il faut peut-être faire le même chemin aussi, éventuellement.
Alors, il y a déjà une marque de Stellantis qui est en F1, avec Alfa Romeo. Non, je pense qu'ils
partent
parce qu'ils ont eu peur de DS, à mon avis.
Ça doit être ça.
Ça doit être ça. Non, encore une fois, plus sérieusement, c'est deux offres différentes, comme je le disais. Donc, c'est des choix un peu d'entreprise de rester en Formule 1 ou de partir en Formule 1. En l'occurrence, Porsche est aussi en Formule 1. Et je ne suis pas sûr que leur implication en F1, si elle se confirme, soit synonyme d'arrêt du programme de Formule 1. C'est deux catégories qui peuvent coexister, aussi bien dans l'offre pour les spectateurs qu'au sein d'un même constructeur. Il y a des technologies qui sont communes. Hein. Les technologies des moteurs électriques de FE et de F1 sont quand même très proches.
Et justement, pour Porsche, ça peut permettre, peut-être que le travail en FE, ça peut permettre de mieux travailler avec l'utilisation des batteries en Formule 1. Je ne sais pas, je pose la question en termes de néophytes.
Très probablement, pour les batteries, je ne sais pas, mais pour les moteurs et la chaîne de traction, c'est sûr qu'ils ne partent pas de zéro. On va dire qu'on n'en fait pas la même chose, donc ce ne sont pas les mêmes pièces, évidemment, mais les technologies utilisées sont les mêmes. Donc clairement, ils ne partent pas de zéro. Je ne pense pas que ce soit ça qui les incite à aller en F1, mais il y a clairement des parallèles et des passerelles entre les deux.
Merci beaucoup, Thomas. Les minutes, elles passent à la vitesse grand V en votre compagnie. C'est toujours très intéressant. Prochain rendez-vous pour la Formule E, ça sera du côté de Berlin, sur l'aéroport Tempelhof. Il y a une première place au championnat à aller rechercher. Hein. Jeff est deuxième désormais du championnat. C'est la mission à Berlin?
Absolument, c'est bien notre intention. Maintenant, Jeff est deuxième et DS Tichita est deuxième aussi au championnat constructeur. Donc, on a bien l'intention d'aller se battre avec nos copains allemands qui sont eux aussi d'ailleurs en F1 et en FE pour aller récupérer la première place.
Parfait. Si ça vous intéresse, je vous donne quand même les horaires du Grand Prix de Miami de Formule 1. Essai libre 1, ça sera vendredi à 20h30. C'est après la journée de travail. C'est parfait. Comme ça. Comme ça, vous pourrez continuer à travailler. La qualif samedi à 22h et le Grand Prix dimanche à 21h30. Ça vous va ?
Ça me va très bien et je dois vous avouer que je serai devant la télé.
Impeccable. Merci beaucoup, Thomas.
Merci, avec plaisir.
Merci, Thomas. À bientôt.
Au revoir.
Bon, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un patron d'équipe. Je trouve ça très instructif. On vous a donné les horaires donc, du Grand Prix de Formule 1 de Miami. Ce n'est pas la peine de prendre votre maillot de bain, la Marina. C'est un fake. C'est de la peinture. C'est pas la peine d'y aller. Un peu grotesque quand même le truc, honnêtement. C'est comme si nous, on pourrait faire un trucage pour être super, super costaud.
Hein, ça,
on va faire ça. On va faire ça. On va remercier Marion Rabot qui nous a permis de vous présenter ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez le nouvel épisode directement sur votre smartphone. Bon Grand Prix de Miami. Et nous, Stéphane, on se dit qu'on... On va se dire à la semaine prochaine.
Oui.
Et d'ici là, on coupe le contact.